Bonsoir à tous, bienvenue au Bistro Ethnologue, comme je me plais à le dire à chaque fois. Je vous rappelle, comme il est d'usage, que ce Bistro Ethnologue ne pourrait avoir lieu sans l'aide des collectivités locales, villes, départements, régions bien sûr, et surtout sans l'aide de la DRAC bien sûr, qui est notre financeur principal. Et je le remercie encore ici ce soir. Nous accueillons ce soir Léonore Lequen, qui était venue il y a 7 ans au Bistro Ethnologue que nous avions organisé ce soir-là à Agnane, qui se trouve à 25 km d'ici d'ailleurs. Et nous avions réalisé ce Bistro Ethnologue dans ce qu'on appelle l'ISES, ce qu'on appelait l'ISES, l'Institut d'éducation spécialisée, qui d'ailleurs avait été surveillé avant, quelques décades auparavant. Donc elle nous avait parlé d'un ouvrage qui s'appelle Prison, une ethnologue en centrale, donc, qui a été édité en 2000 chez Odile Jacob. Alors, au-delà de ce livre-là, elle a publié aussi Révolte à perpétuité à la découverte en 2002. Et le livre que nous allons avoir le plaisir de voir évoquer ce soir, Avoir 16 ans à Fleury, une ethnographie d'un centre de jeunes détenus. Alors, à la différence des adultes incarcérés à Poissy pour les moyennes et longues peines étudiées en 2000, la population adolescente détenue à Fleury est, peut-on dire, de passage, avec toute la polysémie que l'on peut donner à ce terme. Elle ne reste que quelques semaines ou quelques mois, si j'ai bien compris. C'est donc un objet de recherche en perpétuel changement. À la différence des vieux détenus de Poissy que Léonore avait étudié en 2000, qui s'organisent sur un système de représentation assez stable, aux extrêmes duquel on trouve le pointeur, vous connaissez ce terme qui désigne le violeur, et de l'autre le politique. Ici, chez les jeunes, leur mode d'identification reste associé à la société civile, à ses espaces, à ses quartiers, à des références ethniques aussi. Quelle sociabilité ces représentations entraînent-elles et comment l'institution carcérale met en œuvre sa mission réglementaire de socialisation dans ce contexte? C'est à ces questions que Léonore va répondre ce soir, sans doute.
Voilà, donc je viens effectivement vous parler d'une recherche que j'ai effectuée à Fleury-Mérogis, un centre de jeunes détenus. Le centre de jeunes détenus, c'est à Fleury-Mérogis. C'est un bâtiment qui a 4 étages. Les détenus mineurs, donc qui ont entre 15 et 17 ans, sont au 3e étage. Donc au 1er, 2e, 4e étage, vous avez des détenus adultes, qui sont des détenus condamnés à des courtes peines et qui sont en formation. Donc c'est une recherche que j'ai effectuée et qui a été commanditée par le ministère de la Justice. J'étais censée étudier la sociabilité des jeunes détenus, c'est-à-dire les relations qu'ils ont entre eux, les manières de se présenter, la formation des groupes. Et donc je vais travailler au centre de jeunes d'études Fleury-Mérogis, qui est pour le ministère un établissement modèle. C'est un établissement modèle. Il y a une politique éducative qui serait exceptionnelle à Fleury-Mérogis. Donc je suis partie observer ce quartier mineur exemplaire, qui est une vitrine de l'administration pénitentiaire. Donc j'allais rencontrer, je pensais, des garçons pris en charge par une équipe pluridisciplinaire, des psychologues, des travailleurs sociaux, des enseignants, des formateurs divers, des garçons qui devaient être quotidiennement encadrés de 7h à 19h par des surveillants en survêtement et non uniforme, tous volontaires et spécifiquement formés à cette tâche. Le ministère me vantait aussi l'organisation en petites unités de vie qui regroupe 10 à 15 jeunes, chacune tenue par un surveillant référent. C'est-à-dire à Fleury-Mérogis, vous avez l'unité arrivant, dans laquelle passent tous les détenus qui arrivent. Ils y restent à peu près une dizaine de jours. Ensuite, l'unité ordinaire, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'ils nettoient bien leurs cellules, lorsqu'ils n'insultent pas les surveillants, ils vont en unité ordinaire. Là, ils ont droit à 1 heure de promenade le matin, à la télévision en cellule, et ils peuvent aller dans une salle d'activité l'après-midi. Si tout se passe bien, s'il reste encore plusieurs semaines, ils peuvent aller en libéral. Là, ils ont plus d'activité. Et puis, s'ils insultent les surveillants, ou s'ils font mal leur lit, ou s'ils nettoient mal leur plateau au repas, ou s'ils sentent des pieds, désolé, mais c'est des tels critères qui permettent d'évaluer les garçons, ils peuvent aller en strict, en unité encadrement, Alors là, il n'y a pas de... Excusez-moi, c'est un peu loin, l'unité d'encadrement. Ils n'ont pas de télévision. Donc ils sortent une heure de promenade. S'ils ont la télévision, mais ils ne peuvent pas aller en salle d'activité, pardon. Et puis s'ils insultent les surveillants ou s'ils commettent une faute, ils doivent aller en strict. Alors en strict, c'est une heure de promenade, pas de télévision et pas d'activité. Bon. Voilà, ça c'est Fleury-Mérogis. Alors, qui sont les garçons? D'abord, ils sont entre à peu près 50, et ils peuvent être entre 50 et 100. Ils sont presque tous issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Il y avait aussi quelques Roumains et quelques Chinois. Les Chinois sont les détenus asiatiques. Seuls, à peu près, sur 70, seuls 4 ou 5 détenus portaient un patronyme français. À l'époque, près de 10% des détenus avaient moins de 16 ans. Et dans près de 90% des cas, les garçons n'ont pas encore été jugés. Donc ils sont tous en préventive. Alors, ils ne sont pas des grands criminels. Hein. Il n'est pas besoin d'avoir commis un crime pour être à Fleury-Mérogis. En fait, ils ont essentiellement commis des vols. En fait, ils ont commis des délits à répétition. Et le juge pour enfants, au bout d'un moment, s'est lassé et les a incarcérés. Donc ils ont commis une suite de vols. Ils se sont bagarrés. Enfin, ils ont commis des violences sur d'autres jeunes. Ils ont brûlé des voitures. Ils ont commis des petits trafics de stupes. Quelques-uns, c'est vrai, mais ils sont quand même rares. Ce sont les moins nombreux. Ont commis des crimes, c'est-à-dire ils ont ou violé ou commis des braquages. Enfin, ceux-là sont quand même une minorité. La majorité a commis une suite de délits. Ou alors ils ont aussi, ils n'ont pas respecté les exigences de leur contrôle du contrôle judiciaire qu'ils devaient, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis, un contrôle judiciaire sur une peine précédente qu'ils n'ont pas respecté, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus auprès de leurs victimes, ils sont retournés chez leurs parents alors qu'ils devaient être en foyer, etc. Voilà, donc voilà les jeunes de Fleury-Mérogis. Donc ce ne sont pas des grands criminels comme on essaye souvent de nous le faire croire. Alors, donc je pars là-bas, je pars observer ce quartier exemplaire. Alors de mon côté, j'avais déjà, comme l'a rappelé Richard, j'avais déjà rencontré des condamnés à de longues peines qui passent leur temps à se distinguer les uns des autres, à juger de la moralité de leurs voisins et à se présenter comme des êtres moraux. Donc je m'attendais, en arrivant à Fleury-Mérogis, à rencontrer des jeunes détenus pressés de se différencier de leurs voisins, de justifier leur mise à l'écart du groupe social ou de convaincre de leur innocence. Alors, bien entendu, je n'ai rien trouvé de tout cela. J'ai plutôt trouvé un système éducatif complètement vacant, avec de rares activités socio-éducatives. Les conseillers d'insertion de probation, c'est-à-dire les éducateurs, se contentaient de recevoir les mineurs pour des entretiens arrivants très administratifs, et ne montaient pratiquement jamais à l'étage des jeunes. Les surveillants, en fait, n'avaient que le ménage à faire faire aux jeunes pour les occuper. En fait, c'était les principaux outils éducatifs de Fleury-Mérogis, c'est l'appel, le balai et la serpillière, qui passent d'une cellule à l'autre l'après-midi, en fait. Alors, quant aux jeunes détenus que j'ai rencontrés, ils faisaient tout pour banaliser leur séjour carcéral. Donc, ils occupaient leur journée à transformer leur lieu de détention en une annexe de la cité. Donc ils normalisaient leurs infractions, qui étaient finalement, me faisaient-ils comprendre, rien d'autre que des faits de jeunesse. En fait, quand je suis arrivée à Fleury-Mérogis, je m'attendais à vivre une expérience exceptionnelle. Mais je me suis beaucoup ennuyée, comme les surveillants et comme les jeunes détenus. Comme on a peu de temps, enfin on n'a pas beaucoup de temps, je vais essentiellement parler des jeunes détenus. Et pas des surveillants. Alors d'abord le terrain, mon travail de terrain, en quelques mots. Lorsqu'on arrive à Fleury-Mérogis, au centre de jeunes détenus, on ne manque pas d'être surpris. Alors qu'on se serait attendu à pénétrer dans un lieu mortifère, on a l'impression de se trouver dans un espace fréquenté par une bande de copains, soumis pour quelque temps à des contraintes évidentes mais passagères. En fait, les garçons ne cessent de s'interpeller de par les fenêtres. Une fenêtre à la cour de promenade, parfois dans l'escalier, malgré le silence imposé par les surveillants. Alors je cite, ça crie partout, c'est « oh ma fouse, tu fais quoi bâtard ?» Ou alors c'est « oh cousin, bien ou quoi ?»« Eh Mohamed, oh c'est Samir, t'es béton pourquoi ?»« Eh Diallo, nique ta mère, eh Hichem, wesh, je suis libéré, vas-y. » Enfin voilà, c'est des cris comme ça qui... Et donc on a l'impression de se retrouver dans une prison, avoir affaire à une bande de copains qui tous se connaissent, qui sont gardés par des surveillants, mais... Alors il m'a fallu quelques semaines pour comprendre un peu où je me trouvais et savoir ce qui se passait. Alors pendant ces premières semaines, donc, je trouvais complètement perdu. Alors, d'abord je ne comprenais pas leur langue, je n'avais jamais rencontré de jeunes des cités, donc je ne comprenais pas leur langue. Leur tenue vestimentaire me surprenait un peu, leur démarche à louper aussi m'interrogeait. Enfin, j'avais l'impression d'avoir en face de moi un groupe, encore je répète, un groupe compact de jeunes qui tous se connaissaient. Le groupe me paraissait impénétrable, d'autant plus que, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à Fleury-Mérogis, la population carcérale, donc les jeunes détenus se renouvellent beaucoup. En fait, ils restent en moyenne 43 jours. Mais la plupart restent 15 jours, une quinzaine de jours, parce qu'il y a quelques... La moyenne est plus longue parce qu'il y en a quelques-uns qui restent plusieurs mois. Mais la plupart restent 15 jours. Donc, j'avais les têtes qui se... J'avais jamais le droit à faire aux mêmes têtes. Donc c'est très difficile d'entrer en contact avec ces jeunes qui avaient tous l'air de se connaître et qui changeaient tout le temps. Alors j'ai décidé d'attendre, hein. J'ai pris mon carnet, puis je me suis dit je vais noter tout ce que je vois. Et puis au bout d'un moment, alors il y a un détenu qui vient me voir, qui me dit on vous appelle la dame qui écrit tout, qui êtes-vous? Au bout d'un moment, je suis décidé de lâcher ce carnet, puis de me laisser faire, enfin me laisser porter un peu par les événements. Petit à petit, leur langue m'est devenue plus familière et j'ai commencé à rentrer en contact avec eux. Alors j'avais un peu observé leur façon de se présenter, donc quand ils me demandaient qui j'étais, j'expliquais que j'étais venue ici, que j'étais venue pour voir un peu ce qui se passait, ce qu'ils vivaient. Et petit à petit, ils m'ont demandé si je comptais écrire un livre. Alors j'ai dit pourquoi pas. Ce qui permettait d'un peu de rehausser, de redonner un petit peu de valeur. Ils disaient super, va écrire un livre sur nous. Donc je suis devenue rapidement celle qui allait écrire un livre. Et puis j'ai aussi accepté de m'ennuyer. C'est-à-dire que j'ai accepté de me faire à l'ennui. L'ennui, c'était quand même un élément constitutif de l'expérience carcérale de Fleury-Mérogis, des surveillants et des détenus. Donc je me suis laissée, je me suis dit tant pis, je vais m'ennuyer pendant un an, parce que j'y suis restée un an. Alors, les jeunes détenus, en fait, je les rencontrais essentiellement, ils venaient me voir, c'est eux qui venaient me voir pour discuter avec moi. Je les rencontrais en début d'incarcération, lorsqu'ils se sentaient vraiment seuls. Et puis après, on se voyait plus, et puis ils me rappelaient quand ils s'ennuyaient, entre deux activités, alors quand ils avaient un quart d'heure de libre, une heure, ou alors quand ils étaient punis, et donc ils devaient rester en cellule, en fait, quand ils s'ennuyaient. Alors je traînais aussi dans l'établissement puisque je suivais aussi les surveillants. Donc j'étais là le matin vers 7-8 heures jusqu'au soir, jusqu'à la fermeture des cellules vers 17h40 à peu près. Donc j'ai affaire à ce groupe compact, je rencontre quand même des détenus petit à petit. Alors lors des entretiens, donc les garçons m'ont tous confié avoir été submergés par la peur à l'annonce de leur placement en détention par le juge des libertés de la détention. Mais ils m'expliquent que le lendemain ou le surlendemain de leur arrivée, ils relèvent doucement la tête. En fait, la plupart retrouvent, en effet, à Fleury-Mérogis, une connaissance, ou parviennent à établir des relations communes. Ils croisent des visages familiers. Alors Sally, 16 ans, m'explique, il y en a de mon quartier, ici, j'ai halluciné quand je les ai vus. Un majeur, il est tombé une première fois et il est retombé, et là, je le connais. C'est un gars qui habite à deux pas de chez moi. Son petit frère est au quatrième, c'est un pote à moi. C'est un truc de ouf, c'est traumatisant, c'est hallucinant. Votre voisin, Walid, je le connais de dehors, il habite juste à côté de moi. Il habite au Mai, et moi j'allais au Mai en cours. Dans la cour de promenade, donc, les jeunes reconnaissent des voix qui les interpellent par-delà les barres de béton qui cachent les fenêtres. Boniface, 17 ans, raconte, « Un jour j'entends la fenêtre, mais je la connais cette voix. » Alors dans un premier temps, ces retrouvailles étonnent et troublent les garçons. Donc ils ne sont pas seuls à être enfermés, leur souffrance n'est pas unique. Puis après ils s'y habituent, et ils prennent plaisir et les attendent fiévreusement. C'est-à-dire que dès qu'il y a des arrivants qui arrivent, ils regardent à la fenêtre pour savoir s'ils connaissent des gens. Parce qu'avant tout, ces connaissances de l'extérieur rassurent. Donc ce sont des repères, et elles protègent quelque peu du sentiment d'exclusion causé par l'incarcération. Elles permettent en fait de situer l'autre et soi-même. Ces connaissances ouvrent l'espace de la prison et apportent un peu de lumière dans l'abîme où le garçon est tombé. Ludwig, 17 ans, me dit, Après, on fait des connaissances, on se rend compte qu'il y a des copains qu'on connaît. Ça fait un premier sujet de conversation. Ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui traîne dans le même lieu. Surtout grâce à ces retrouvailles, leur expérience individuelle et personnelle s'apparente presque à un destin collectif et social des membres d'une classe d'âge. Alors, quand ils se retrouvent entre adolescents de la même cité, du même quartier ou du même département, les garçons invoquent moins un espace territorial à défendre qu'une communauté de situations, de pratiques et d'expériences qui les rassemble et leur permet de savoir qui est l'autre. Dans cet espace communautaire, ils ont, ou auraient pu, fréquenter les mêmes écoles, les mêmes bancs, les mêmes caves, ensemble ou non d'ailleurs, et ils ont eu, ou auraient pu avoir, affaire aux mêmes policiers, aux mêmes magistrats et aux mêmes éducateurs. Ils ont d'ailleurs parfois même commis des infractions ensemble. Alors, être issu du même quartier ou de la même cité, c'est avant tout donc avoir grandi avec, ce qui trahit le caractère familial de l'affiliation sociale des adolescents. En fait, le lien est presque un lien de sang social, qui ne relève pas des contingences du moment, c'est-à-dire de la prison. Yacine observe, quand on grandit ensemble, il n'y a rien qui peut te séparer. Alors, le fait d'être issu de la même cité ou du même quartier dit une histoire à la fois commune et personnelle. Ça annihile le contexte même de l'incarcération. Avoir grandi avec, ou plus simplement avoir fréquenté le même territoire, vaut à la fois connaissance et reconnaissance. Quand bien même on n'a pas beaucoup parlé à ces garçons-là, on sait comment il est. Yacine observe encore, quand c'est quelqu'un de son quartier, on sait à qui on parle, quoi. Et puis surtout, avoir partagé des expériences donne à l'autre, hein, avec un A majuscule, une visibilité sociale. Ça le rapproche de soi. Ça permet à la fois de s'identifier à lui et de l'identifier à soi. Celui avec qui on a grandi n'est en effet jamais un délinquant. Il ne peut pas plus que soi, avoir été guidé par une intention malfaisante en commettant un délit quel qu'il soit. Vol, viol ou coup ayant entraîné la mort. Pas plus que soi, il ne peut être un salaud. En fait, reconnaître l'autre comme capable d'un crime reviendrait en effet à reconnaître qu'on peut l'être soi-même, ce qui est impossible. Et donc Aziz, par exemple, Aziz, 15 ans, défend le garçon qui a frappé, l'homme qui venait, il y avait eu une affaire dont on avait beaucoup parlé dans la presse, c'est un homme qui avait été frappé à mort par des jeunes, auprès de qui il venait récupérer le vélo de sa femme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, bon. Et donc un des jeunes qui était dans l'affaire arrive et puis Aziz le défend alors qu'il n'a pas eu l'occasion de parler avec lui. Il dit franchement je pense parce que c'est pas une histoire qu'on voit tous les jours, en plus c'est un père de famille, lui ils l'ont mis pour l'opinion publique, moi je le voyais dehors, je sais exactement où ça s'est passé, c'était pas fait exprès, ils ont pas dit ouais le gars il vient on va le tuer, ils lui ont mis le coup sur la tête. Donc en fait, tout parce qu'il le connaît, que c'est un garçon qui vient de son quartier, ça ne peut pas être lui qui a commis le crime. Enfin, c'est ça, le meurtre n'a pas pu être fait de manière volontaire. Donc ce garçon que l'on connaît n'est donc ni un détenu, ni un autre, mais un être semblable à soi, capable d'effacer la prison et sa stigmatisation infamante. Le fait que l'autre soit issu de la même cité ou du même quartier révèle aussi ainsi enfin, sa probité morale. Cette fraternité, qui trouve aussi son origine dans ce que la cité représente pour les adolescents à l'extérieur, c'est-à-dire un refuge contre le monde, semble ici naturelle. Être identifié au même territoire permet d'ailleurs d'entrer en contact immédiatement, et plus simplement de parler. Dès qu'on sait qu'un tel vient de la même cité ou du même département, ça devient une connaissance, un copain, et on peut immédiatement lui parler. Donc cette affiliation est évidente à chacun. Seul un fou ou l'ethnologue peut la remettre en question. Alors, si effectivement beaucoup d'adolescents se retrouvent dans cet établissement, c'est parce que la politique d'affectation dans les établissements pénitentiaires conduit les magistrats à incarcérer dans cet établissement les mineurs qui habitent Paris et ses banlieues Est et Sud, à Fleury-Mérogis tout au moins. Mais lorsqu'ils se reconnaissent, les garçons s'approprient aussi symboliquement l'espace et le transforment en un lieu maîtrisé d'eux-mêmes pour mieux supporter leur incarcération. En fait, ils banalisent le lieu qui devient une annexe de la cité. Et donc, il n'est plus stigmatisant de s'y trouver. C'est pourquoi ils font valoir et amplifient même cette interconnaissance. ils élargissent les possibilités d'affiliation. C'est-à-dire que pour être plus nombreux encore à se connaître, pour former un groupe encore plus compact, ils construisent presque ces affiliations, ils les fabriquent. C'est pourquoi les liens qu'ils établissent ne se limitent pas aux garçons du même quartier, de la même cité. En fait, ces liens-là s'étendent à ceux qui, bien que n'en étant pas issus, les fréquentent, ces lieux où ils traînent. Ainsi, par exemple, le fait de se rendre souvent dans un autre quartier et d'y connaître du monde autorise l'affiliation. Il y a par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, Souède, qui est du 94, lui dit « Alfred, il vient de Paris 11, mais il traîne avec un mec du 94, donc c'est un copain ». C'est pour ça qu'en fait, qu'on a l'impression que tous ces jeunes-là se connaissent. En fait, ils créent les affiliations comme ça. Des garçons que l'on ne connaissait pas ou avec qui l'on n'entretenait pas de lien, mais que l'on aurait pu croiser, deviennent aussi des connaissances auxquelles on se réfère et s'allie. La fréquentation des mêmes lieux, à un moment ou à un autre de ces pérégrinations, fait aussi de l'autre une connaissance. Frédéric, 16 ans, explique, il y a Chavannes, il habite vers chez moi, vers Meaux, il achète des chaussures vers là-bas, normal que je le connaisse, dehors il vient me voir. À Paris, la gare du Nord, la station Châtelet-Léal, l'avenue des Champs-Élysées et le quartier Barbès sont des lieux privilégiés où tous ou beaucoup de jeunes se rencontrent. Sofiane, 15 ans, m'explique. Youssef, lui, je le connais de dehors, je le connais de la gare du Nord. Il y a beaucoup de jeunes qui vont y manger, il y a un grec. Alors savoir que l'on a ou que l'on aurait pu rencontrer des connaissances communes suffit aussi à s'affilier. Selon le vieil adage, les amis de mes amis sont mes amis, on s'allie à des relations indirectes et on élargit le cercle. Yacine, 17 ans, me dit, Ousmane, c'est comme si je le connais de dehors. En fait, son grand frère à Ousmane, il connaît super bien une personne que je connais super bien. Alors, grâce à ces garçons que l'on n'a jamais connus auparavant, mais avec qui l'on partage des connaissances ou des lieux, on établit en fait un lien direct entre l'espace carcéral et l'espace extérieur. Et donc, ces connaissances passées, en tout cas revendiquées et souvent amplifiées, prolongent, voire même quand elles sont exagérées, créent le lien avec l'extérieur. Elles protègent de la solitude et garantissent un peu de solidarité. Comme partout, on est aussi plus fort à plusieurs que tout seul. Et puis ces liens, réels ou reconstruits, encore une fois, font aussi écran à l'intrusion du personnel et de l'institution dans son intimité. Ces connaissances, entre guillemets, dressent un écran protecteur entre les surveillants et eux, et plus généralement avec les adultes, dont l'ethnologue. Plus généralement, se retrouver nombreux sous de la communauté face à celle des adultes. Leur nombre est une force contre le pouvoir des juges et le rôle des surveillants. La communauté des jeunes de cité que l'on envoie en prison investit le lieu en masse, étouffe l'institution et son personnel, annihile ses effets. Donc il s'agit, contrairement aux détenus adultes, non plus de se distinguer les uns des autres, mais de s'affilier face aux adultes, de créer un groupe qui va être une force face aux adultes. Et puis de manière générale, lorsque l'on connaît des co-détenus et les situe hors de l'espace de la prison, on s'extrait avec eux de l'institution pénitentiaire et on partage une même condition ailleurs. Et donc l'expérience collective s'ajoute à l'expérience et à l'échec individuel pour peu à peu les dépasser et pour adoucir l'épreuve carcérale. Les garçons transforment ainsi peu à peu l'abîme carcéral en un lieu familier et donc maîtrisé. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, en fait, avant de se fréquenter, il faut évaluer le degré d'affiliation possible et donc savoir où l'autre habite et surtout de quel département il vient. C'est pourquoi là, il y a la grande question qu'on entend au moins 100 fois par jour et qui se pose tous les uns les autres, c'est « tu viens d'où ?» C'est la première question qui se pose. « T'es d'où ? T'habites où ?» Voilà. Alors, donc c'est ça qui donne un peu l'impression qu'on a affaire à un groupe de jeunes qui se connaissent tous, en fait. Alors, si les garçons se rassemblent et font masse face aux adultes, c'est-à-dire au personnel de surveillance, aux éducateurs, enfin qui sont rares, à l'ethnologue, ils n'en oublient pas moins de se distinguer les uns des autres. Car c'est la création de groupes différenciés, c'est-à-dire la formation d'alliances et d'oppositions, qui permettent d'établir des rapports sociaux. Donc ils sont obligés aussi de distinguer pour pouvoir communiquer et d'avoir des rapports les uns aux autres. Alors ces groupes différenciés, ils les créent à partir des infractions. Et donc après la question t'es d'où, il y a la grande question, la seconde question, c'est t'as fait quoi ? Alors, d'abord, les infractions sont étroitement associées au territoire et à la spécialisation prétendue de chaque garçon dans un seul type de délit. Alors tout d'abord, si toutes les infractions sont susceptibles d'être commises partout, les garçons s'accordent parfaitement sur un classement établi à la fois par le territoire et le type d'infraction. À les entendre, l'ensemble des départements de la région parisienne formerait un système cohérent dans lequel tous les forfaits, à l'exception du viol, hein, que personne ne revendique jamais, ça on pourra peut-être en reparler, sont représentés. Alors Youssef, 16 ans, énumère, le 91, il y a plus de tribunal, il y a plus d'affaires entre bandes rivales. 92, c'est la drogue, c'est la narcotique. 93, c'est les vols. 94, c'est les braquages. 95, c'est les raquettes, le Val d'Oise. 77, c'est les jeunes, un peu les voitures brûlées, les petits. 78, c'est les émeutes, ceux qui frappent la police. Un autre, David, 17 ans, Vitry, le 94, tout ça, c'est plutôt les braquages. Dans le 91, c'est les agressions, les bagarres dans les quartiers. Paris, c'est la vente de drogue avec ceux du 92. Dans le 93, c'est plutôt des vols à l'arraché. Villeneuve-Saint-Georges, c'est les embrouilles et les braquages. Voilà, donc à chaque département, son type de délit. Alors, lorsque les adolescents prétendent commettre les délits de leur département ou de leur arrondissement, c'est ce qu'ils font, ils montrent leur adhésion aux valeurs du groupe, à sa sociabilité, ce qui est signe d'une certaine respectabilité, en fait. Respecter l'ordre social et moral de sa communauté dans ses propres infractions, cela protège aussi le garçon de la caractérisation de délinquant. Comme s'il n'y avait de délinquance ou de déviance qu'à partir du moment où l'on commet des actes qui n'appartiennent pas au pratiques de sa communauté. Ils sont en fait, en énumérant tous ces délits par département et en expliquant commettre les délits de son département, ces garçons se présentent comme des êtres moraux. Alors, en même temps qu'ils signalent leur adhésion au groupe, tous évoquent ensuite leur domaine, c'est-à-dire leur domaine entre guillemets, c'est-à-dire cette fois leur propre spécialité. Ils commettent les délits de leur département, mais ils ont aussi chacun une spécialité. Comme même dans leur dossier pénal, dans le dossier judiciaire, on voit qu'ils ont commis tout type de délits, hein, peu importe. Alors tous évoquent leur spécialité. Alors il y en a un qui me dit moi je vole, d'autres moi mon domaine c'est le pickpocket, un autre moi mon truc c'est plutôt la violence. Le vol de voiture, c'est un peu mon domaine, etc. Enfin, c'est ça, c'est les discours qui me tiennent, mais qui tiennent aussi entre eux. En fait, une spécialisation personnelle ne s'oppose jamais à la spécialisation du quartier, elle s'ajoute. Cette spécialité sous-entend un savoir-faire. Elle honorabilise et respectabilise n'importe quelle infraction. Ludwig, 17 ans, qui lui était là pour plusieurs braquages, ne cesse de répéter à qui veut bien l'entendre, donc à moi, mais aussi aux autres détenus, tu peux tout faire si tu le fais bien. Alors quand ils vendent leur spécialisation, les garçons sous-entendent qu'ils n'agissent ni par besoin, ni par pulsion, mais par choix et après réflexion, et donc qu'ils appartiennent au domaine de la culture. Ce qui, même s'ils sont en prison, leur permet de se maintenir dans le groupe social et moral, de s'assurer une certaine dignité. Alors même si dans les faits, cet ordre est loin de démontrer, par exemple à Vitry, par exemple, on ne commet pas que des braquages, dans le 92, le pickpocket peut aussi revendre du hashish ou commettre un cambriolage, y déroger en avouant commettre des infractions de toutes sortes ou étrangères à son territoire d'appartenance reviendrait à s'exclure du monde social et à faire preuve de son amoralité. En fait, lorsqu'on les écoute, les délits importent moins pour eux-mêmes que pour le classement de leurs auteurs et des territoires qu'ils autorisent. Et donc la question « t'as fait quoi ?» qui est aussi posée à tout bout de champ, n'est donc pas destinée à évaluer le degré de moralité de celui à qui elle est posée, en tout cas pas pour l'infraction elle-même. Alors que c'est vraiment le cas dans les établissements pour peine. Les détenus se jugent selon les délits qu'ils sont censés avoir commis. Là, il ne s'agit pas du tout d'évaluer la moralité de celui qui a commis le délit. D'ailleurs, les jeunes détenus, et encore une fois, contrairement aux condamnés à des longues peines, ne portent jamais, pratiquement jamais, de jugement moral sur les actes commis. Ils ne disent pratiquement jamais « c'est bien, c'est mal, ça ne se fait pas, je n'aurais pas dû ». Ni à propos de leurs propres infractions, ni à propos de celles des autres. Lorsqu'ils évoquent leurs actes, les garçons sont avant tout dans la bravade et leurs victimes sont totalement absentes de leur discours. Alors que les condamnés à de longues peines n'ont de cesse de justifier leur présence en prison et de se présenter comme des êtres moraux en jugeant les infractions et les valeurs de leurs codétenus, les garçons, eux, ne cherchent pas à faire preuve de leur moralité car celle-ci n'est pas en cause. Alors, certains adolescents, notamment ceux qui ont 17 ans, distinguent les actes, quand même les actes des petits, des actes trop honteux, de ceux des grands comme eux. En fait, donc il y a les actes des petits, les actes des grands. La délinquance des petits serait polymorphe, tapageuse et gratuite. En fait, les petits, ceux qui ont entre 15 et 16 ans, commettraient des vols à l'arraché de sacs à main ou de portables, du petit trafic de stupéfiants, ils brûleraient des voitures. À l'opposé, la délinquance des grands, 17 ans, serait plus spécialisée. Elle serait réfléchie, discrète et payante, comme les vols à main armée. Les petits, on m'explique que les petits sont des récidivistes, qu'ils reviennent sans cesse en prison, qu'ils n'ont rien compris. Les grands, eux, n'effectuent qu'un ou deux séjours en prison, c'est tout. Ça, c'est le discours des plus grands. Mais malgré les critiques et le mépris qu'ils témoignent aux petits, les plus grands tolèrent leur délinquance du fait de leur jeune âge, parce que les petits deviendront aussi grands. Et puis si les plus grands dénigrent un peu les vols des petits, c'est plus par faufanterie que par désapprobation morale, en fait. Ici donc, les garçons classent leurs infractions et leurs auteurs. Cette distribution des infractions éloigne les adolescents d'une prise de conscience personnelle de leurs actes et plus généralement d'une réflexion sur leur parcours individuel. Donc s'ils ne manquent pas de vanter leur propre spécialité, comme les vols de voitures, les pickpockets, les bagarres, le vol à main armée, ce qui rend encore une fois leurs actes respectables, la prise en compte de ces critères communs dépersonnalise leurs infractions et de fait les déresponsabilise eux-mêmes. Les infractions sont débarrassées de motivations purement personnelles. Elles ne sont pas associées à l'individu, mais au groupe, au quartier et à la culture. C'est pourquoi, et ça c'est vraiment important, c'est qu'avant tout, commettre des infractions insère dans le groupe des pairs. Alors que les détenus adultes commettent leurs infractions et donc s'excluent du groupe de leurs pairs, les jeunes détenus commettent leurs infractions pour être dans le groupe des jeunes, en fait. Ça, je crois que c'est vraiment une spécialité, une spécificité du discours des jeunes détenus. Bon, ils font aussi les détenus font aussi d'autres distinctions. Alors j'ai dit que les garçons de Fleury-Mérogis étaient majoritairement issus de l'immigration maghrébine et africaine. Et donc ces garçons-là rejettent trois catégories de détenus qu'ils regroupent tous sous la dénomination de victimes. Alors ils rejettent donc les Chinois, qui sont les détenus asiatiques, qui viennent du Cambodge ou de Chine, les Roumains, qui viennent effectivement de Roumanie, et les Français, entre guillemets, c'est-à-dire des garçons chétifs qui portent un patronyme français. Alors je vais parler très rapidement des trois catégories de détenus, enfin des représentations que les jeunes en ont. Alors l'inimitié pour les Chinois est empreinte de méconnaissance et du sentiment de peur qui lui est souvent lié. En fait, les Chinois, effectivement, parlaient très peu français, donc ils parlaient chinois entre eux. Donc leur langue incomprise par les autres et leur regroupement les éloignant de fait, les Chinois, donc, constituent une force impossible à pénétrer. Il y a un détenu qui me dit, à propos d'une unité où les surveillants avaient regroupé plusieurs Chinois, c'est Hong Kong, ici, c'est marrant que des Chinois. Vous voyez pas, ils parlent chinois entre eux. Même les bâtons, ils les appellent les Chinois. Non seulement les Chinois restent entre eux, c'est vrai, mais en plus, ils sont riches. C'est le discours qui me tienne. Leur solidarité et leur richesse supposée est source d'envie et donc de rejet. Aussi, une 17 ans, moi, Chinois, j'aime pas trop les Chinois. Ils sont bizarres. C'est ceux qui prennent le plus d'argent avec les Juifs. Ils ont des restaurants et des grosses voitures. Les Chinois, je sais pas comment ils ont fait pour prendre leur argent et avoir des restaurants. En tout cas, ils ont réussi. Donc voilà, en gros, ce qu'on me dit sur les Chinois. Ensuite, les Roumains. Alors, si les Chinois sont trop riches, les Roumains, eux, sont trop pauvres. De leur pauvreté découle leur saleté. Patrick persifle, les Roumains, ils ne se lavent pas, ils puent. Vous allez dans les cellules des Roumains, ils puent trop. Ils ramassent les mégots, les cigarettes dehors. Mureusan, c'était un Roumain, il ne se lave pas, lui. Chacun sa merde. Si on vole, il faut avoir des vêtements. Ils ont des dents en or. C'est pas que je les aime pas, mais Bon, voilà en gros les discours des Roumains, sur les Roumains. Ensuite, les Français. Alors les Français, donc, leur erreur est d'être les moins nombreux, et donc pas soutenus par le groupe, et de n'avoir pas a priori le même destin social que les jeunes d'origine maghrébine ou africaine. Hakim, 20 ans, mais 17 ans déclaré. Ici, il n'y a pas de Français, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Les Blancs, ils ne sortent pas de leur cellule, ils ont peur. C'est des victimes. Les autres, ils leur disent, passe-moi tes vêtements. En fait, les Français, entre guillemets, hein, seraient incapables de justifier leur présence en prison par leur histoire sociale. En tout cas, pas celle de leur co-détenu. C'est pourquoi ils décrédibilisent la présence des autres et ils viennent troubler l'ordre social. Yassine analyse, la plupart, c'est des Noirs et des Arabes. On fout la merde. Les Arabes et les Noirs, c'est eux les foudeurs de merde. En général, les familles d'immigrés, ils sont plusieurs. C'est pas comme les familles dans les familles de Français. Ils sont un ou deux. Vous allez chez les Arabes ou les Noirs, ils sont 10. Après, ils ne peuvent pas assurer. La base, c'est ça. On habiterait dans le 16e, mes parents toucheraient 10 000 francs chacun. Personne n'irait voler. Ben oui. Les Français, j'en connais, leurs parents, ils sont riches, ils vont voler. Mais c'est des gens, ils veulent se montrer. Dans ma cité, on les appelle les imitations racailles. Ils n'ont pas besoin d'aller voler, ils ont ce qu'il faut, ils manquent de rien et ils vont voler. Voilà la représentation des Français. Alors, tout à l'heure je disais que commettre des infractions insère dans le groupe des pairs. Je voudrais maintenant insister sur le fait que les adolescents normalisent leurs infractions. Alors, c'est vrai que les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure aussi, ils sont le plus souvent incarcérés pour une série de faits qui ne les placent pas encore dans la grande criminalité. Et donc, ils peuvent parler de leurs délits comme des pratiques de leur classe d'âge et finalement propres à la culture de rue, telle que l'a décrite l'ethnologue David Lepoutre. Et donc, dans la culture de rue, les activités délinquantes participent de la mise en scène de soi. Ce sont des objets de performance et d'exploit, donc elles fascinent, elles attirent, elles incitent à l'admiration et provoquent la reconnaissance des pairs. Les activités perçues comme déviantes par les adultes qui partagent la culture dominante appartiendraient à cette culture spécifique. Et donc le lien entre les infractions qui leur sont reprochées et leurs pratiques culturelles serait quand même une spécificité de la détention des mineurs. Ce lien donc place les adolescents dans une position bien différente de celle des détenus adultes. Les détenus adultes, encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, sont incarcérés pour avoir transgressé les lois et les règles de leur père, c'est-à-dire les adultes comme eux. C'est pour cela qu'ils refusent d'être assimilés aux autres criminels qui les entourent. Par contre, le jeune détenu, qui encore une fois n'est pas jugé, ni donc condamné, explique lui être incarcéré pour avoir commis des actes admis dans son groupe de pères et qui participeraient de sa culture. Et donc qu'ils aient braqué des banques ou des marchands de tabac, qu'ils aient volé des téléphones portables ou brûlé des voitures, qu'ils aient injurié des policiers ou frappé d'autres adolescents, tous se persuadent que la délinquance est commune à tous les jeunes, ce qui permet de nier sa propre délinquance, de dédramatiser son séjour carcéral et d'éviter de s'interroger sur son propre parcours. C'est pour ça que tous les adolescents me font comprendre que leurs infractions sont des pratiques courantes des garçons de leur âge. Et qui cesseront, ça ils le soutiennent tout le temps, dès qu'ils seront majeurs. Ils disent en substance, on pense ça parce qu'on est jeune, on a envie de ça tout de suite parce qu'on est jeune, mais dès qu'on aura 18 ans, à la limite 20 ans, on ne pensera plus comme ça, on arrêtera nos délits, on travaillera et on construira une famille. S'ils sont en prison, c'est bien parce qu'ils sont comme les autres jeunes, c'est-à-dire différents des adultes. Il y a un détenu qui me dit, on est mineur, on a tous la même mentalité. Donc, ils sont différents des adultes qui les ont incarcérés et qui les ont maintenus enfermés, mais aussi et surtout, ça c'est important, ils sont différents des adultes détenus qui, eux, n'ont rien compris. Ces jeunes détenus méprisent, ça c'est aussi ce que j'ai appris à Fleury Mérogis, ces jeunes détenus méprisent les détenus adultes qui, eux, n'ont rien compris à la vie. Ce sont des schlags. Ils ont 30, 40 ans, ils sont encore en prison, et donc ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il fallait s'arrêter à 18 ans, en fait. Là, les garçons se situent ainsi dans un rapport jeune-adulte plutôt que dans un rapport délinquant-citoyen ordinaire. Ou plutôt, le rapport jeune-adulte les protège d'une distinction stigmatisante délinquant-citoyen ordinaire. Ils disent, nous les jeunes, face à vous les adultes, et parmi nous les jeunes, les grands et les petits. D'ailleurs, à de rares exceptions près, ils ne se distinguent pas des jeunes gens socialement bien intégrés. Les garçons qui ne commettent pas de délit sont complètement absents de leur discours. Ils n'en parlent jamais. Ils n'existent pas. Nadir, 16 ans, me dit « Tout le monde a fait des braquages au moins une fois dans sa vie. Soit l'épicerie, soit la poste, les stations-service. L'épicier à côté de chez moi, il se fait braquer toutes les semaines. » Dans la cour de promenade, il y a Frédéric, il s'adresse au surveillant et lui dit « Tout le monde a volé dans sa vie, même vous, surveillant. Vous avez bien volé un vélo. » Jérémy, 16 ans, fait lui aussi comme les autres garçons de son âge. Il m'explique « En fait, moi, au début, j'allais voler avec lui. » Quand il me parle d'un jeune, on allait voler les voitures et tout. Pendant 6 mois, tous les jours, on allait voler les voitures. Dans la journée, on démontait les pièces, les sièges, les roues, et après, on les revendait. Vraiment, on fait tout ça. Il y en a beaucoup qui font ça à Arcueil. Donc, en fait, ils ne font que comme les autres. Ils font comme tous les autres jeunes. Alors, peu en doute, et quoi qu'ils puissent dire d'autres situations, les jeunes soutiennent tous qu'ils cesseront leurs infractions dès la majorité atteinte, au plus tard à 20 ans. Car encore une fois, s'ils commettent leurs crimes et leurs délits, c'est d'abord par jeu, parce qu'il faut bien s'amuser, parce qu'on est jeune justement, mais c'est aussi pour intégrer la vie normale, entendons la vie légale. Et cette légalité justifie les moyens utilisés pour y parvenir. Et donc leur séjour carcéral n'est maintenant qu'une étape sur leur parcours de réussite. Ces infractions prouvent même leurs bonnes intentions. Les vols ne s'expliquent que parce qu'il leur faut accumuler une somme nécessaire à leur future installation, lorsqu'ils auront entre 18 et 22 ans. En fait, s'ils sont ici en prison, c'est bien parce qu'ils prévoient et capitalisent. Un détenu me dit, on réfléchit, on veut mettre de l'argent pour plus tard, pour avoir une maison plus tard. Le plus clochard de la cité, c'est lui qui a le jean troué, il est le plus riche. Et là, ce détenu qui s'appelle Vincent, qui a 17 ans, qui l'a pour des braquages, appuie sa démonstration sur les objectifs atteints et les reconversions réussies de ses proches. Alors il me dit, il y en a plusieurs qui gâchent l'argent, mais il y en a beaucoup qui mettent à gauche. Ils le mettent quelque part. Après, ils peuvent se faire construire une maison au bled. Après, il aide sa femme. La maison, il y en a pas mal. J'avais un copain, il l'a investi en Tunisie. Il faut arrêter de faire des conneries et travailler ensuite. Il est brancardier maintenant. Ils arrêtent un jour parce que ça ne marche pas toute une vie. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc, pour s'installer et vivre en toute égalité, une somme de départ est nécessaire. Un autre détenu me dit, mais moi, je vais changer, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Je fais ça pour avoir un départ, c'est tout. Pour avoir un capital et faire autre chose. Après, je fais comme tout le monde, je fais 1500 euros par mois, une paie normale. Un autre détenu, Laurent, qui vient d'avoir 18 ans, lui, c'est précisément ce dont tout jeune a besoin. Il me dit, je le cite, il faut avoir une somme, sinon on ne peut pas avancer. Il faut le lave-linge, le sèche-linge, la télé, l'appartement. Sinon, il faut faire des crédits. Il faut que je trouve un truc qui m'intéresse. Il y a plein de trucs qui m'intéressent, mais il faut le permis. Ça coûte cher. Après, surtout, il faut la voiture, l'essence et surtout l'assurance. La voiture, ça vaut 10 000 ou 15 000 francs, un petit diesel. Avec l'assurance, ça monte à 20 000, 25 000 francs. Ça fait 2-3 mois de salaire sans rien toucher. Et on ne peut pas vivre sans rien toucher. Ceux qui arrivent, eux, à la base, ils ont déjà leur maison. Ils ont déjà la moitié de leur vie qui est construite. Alors, même s'ils ont un appartement, ils ont tout à l'intérieur. Comment ils l'ont eu, cet argent? Peut-être les gens, après, ils avaient la famille. Mais quand tu pars, t'as rien, t'as 1000 euros en salaire, tu peux pas prendre un appartement vivre, c'est pas possible. Moi, je dis, il me faut pas des 1000 et des 100. 10 000 francs, un bon travail. Il faut des sous pour meubler l'appartement. Une fois que j'ai tout ça à la maison, avec tout ce qu'il faut dedans, une petite voiture, 10 000 francs, c'est suffisant. Parce qu'après, il y a des primes, ils donnent des trucs comme ça. Ainsi, après avoir goûté au luxe, et alors même qu'ils savent où et comment se procurer les bonnes choses, les garçons accepteraient d'intégrer la catégorie des gens ordinaires, ce qui prouve encore une fois leur citoyenneté, voire même leur grandeur morale. Et donc, pour ces adolescents sur la voie de l'intégration et en pleine construction de leur patrimoine, un séjour carcéral n'est qu'un temps perdu à rattraper au plus vite dès leur libération. D'autant que leurs amis, dehors, ont poursuivi leur route. Boubacar, 17 ans, lui est incarcéré pour un vol à main armée. Alors lui, il était très amer, il me dit, parce qu'ici, je réfléchis trop. Quand tu vas sortir, tu vas voir tes potes, ils ont des putains de voitures, tout ça, ça va te ramener direct. Là, j'aurai du retard. Mes potes, ils auront le temps d'avoir je sais pas quoi. Dans un an, tout l'argent que j'aurais pas fait. Faut même pas que j'en parle. Quelques jours avant sa libération, Dimitri, 17 ans, dénonce le coût de revient d'une incarcération. Lui, il me dit, vous savez, quand on va en prison, on doit payer un avocat. Dès qu'on sort, faut pas dormir, faut se remettre au niveau. Bah oui, madame, 2000 euros pour ouvrir le dossier, 1000 euros plus 1000 euros. D'ailleurs, s'il le pouvait, ce détenu n'hésiterait guère à porter plainte. Alors il me dit, la prison, c'est pas ça, c'est pas ça va les faire réfléchir, comme ils disent les juges. Il y en a, ça les endurcit encore plus, ils ont perdu de l'argent. Parce que si vous volez dehors, on a de l'argent tous les jours. Quand on est ici, on perd de l'argent tous les jours, parce qu'on cantine et on fait pas d'argent. Il n'y a personne qui va nous rembourser. Et donc l'incarcération est un préjudice dont les garçons seraient victimes au regard de l'échelle sociale du milieu dans lequel ils s'inscrivent. Aussi, lorsqu'ils incluent la prison dans une logique économique, non seulement c'est une perte de temps, mais en plus elle empêche de gagner de l'argent, ils présentent aussi la prison comme un détour dans leur ascension sociale. Et ce faisant, en expliquant tout ça, les garçons en fait contournent allègrement le but que les magistrats ont assigné à leur séjour carcéral. C'est-à-dire que les magistrats qui les incarcèrent veulent les punir, ils veulent les faire réfléchir sur eux-mêmes et créer un choc psychologique qui doit les conduire à cesser leurs infractions. Et là, les détenus, ce n'est pas tout ce qu'ils nous expliquent, ils m'expliquent qu'une fois libérés, il faudra qu'ils se remettent au plus vite sur la voie de l'intégration. Alors, bon, les détenus... Donc ils soutiennent tous quand même, ça c'est quand même assez intéressant, ils soutiennent tous qu'ils arrêteront leur délit une fois la majorité atteinte, à la limite après leur 20e année. Car si les vols commis lorsqu'ils sont mineurs conduisent vers l'insertion et l'indépendance, que bien même il y a eu incarcération, les vols commis pendant la majorité assujettissent et ramènent forcément au domicile parental et donc à une régression sociale. Yacine m'explique: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais arrêter les conneries un jour ou l'autre. Ou sinon, si ça ne s'arrête pas, un de ces quatre, je serai là-bas avec mes petits au parloir. Ben oui, il y en a beaucoup qui sont pères de famille. Il y en a beaucoup, quand je vais en promenade, à 45-50 ans. Qu'est-ce qu'ils font là? Eh, on ne va pas rester toute notre vie chez nos parents. Mohamed, 16 ans, me dit: quand tu vois des vieux, ils peuvent à peine marcher. Si tu dois arriver à 80 ans en prison, là, tu es jeune, ta vie passe, mais à 30 ans, tu veux encore voir ta mère. C'est pas une vie, ça. Quand ils sortent, ils sont obligés de retourner chez leur mère. Tu crois que ça fait plaisir? Quand tu sors, tu reviens à la case départ. Ainsi, c'est-à-dire que ni la succession de leurs infractions, ni leur expérience carcérale ne les font douter du jour où ils se rangeront, c'est-à-dire du jour où ils deviendront adultes, des adultes responsables. Abdel m'explique: à 18-19 ans, je me trouve un travail stable. Patrick: pour mes 18 ans, à quelques semaines, pour mes 18 ans, il faut que je sois dehors, c'est important. On est responsable, on commence à être adulte. Donc pour les garçons, comme pour les citoyens ordinaires, la jeunesse passe. La perspective de construire un couple et de fonder une famille s'accorde mal avec les délits. L'argent nécessaire et souhaitable lorsqu'on est mineur devient la majorité de l'argent facile qui s'oppose à la charge familiale et à son futur rôle de père de famille. Yacine m'explique: il n'y a pas que l'argent facile dans la vie, madame. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout ça. Ben oui, je suis impatient d'avoir une famille, un jour comme tout le monde. Moi, je veux encore profiter de ma jeunesse, malgré que j'en ai encore profité. C'est quelque chose de bon d'avoir des enfants, d'aimer une personne, d'être en ménage, tout ça. Donc devenir père exige et signe à la fois une existence rangée. L'atteinte de la majorité signe alors la maturité, l'entrée dans l'âge adulte, et comme par magie sociale, l'arrêt de la délinquance. Boubacar observe: un jour, tout s'arrête. En fait, ces garçons-là ont une représentation de la vie adulte et de sa survenue extrêmement linéaire, normative et convenue. Jean, 17 ans, m'explique: franchement, je dis un jour, ça va arrêter la délinquance. On va commencer à travailler, on va comprendre. Parce que là, on est en prison, on est encore gosse. Là, on va commencer à être adulte. Et donc, cette représentation est tellement convenue qu'elle est inatteignable. C'est une représentation de l'âge adulte quand même qui est propre au monde populaire. Les membres des classes moyennes en fait, et supérieures savent, eux, que la jeunesse dure longtemps. Alors, lorsqu'ils se présentent à partir de leur âge et évoquent leur insertion prochaine, les jeunes détenus cassent l'illégalité de leurs actes et du même coup annihilent l'image de la prison réceptacle de délinquants. Et donc, ce faisant, l'endroit n'est plus protecteur d'une identité infamante, tout au moins lorsqu'ils s'y trouvent. Parce que là, tous ces discours que j'ai recueillis sont des discours qui me tiennent en prison. Alors, ce sont des jeunes que je n'ai pas rencontrés dehors, mais si je les avais rencontrés à l'extérieur, je pense qu'ils me tiendront un autre discours. Donc là, c'est le discours qui me tient à l'intérieur de la prison, ce qui leur permet de supporter leur incarcération, en fait. En fait, c'est certitude, hein, la certitude de se dire la délinquance s'arrêtera à 18 ans. Donc, ces certitudes sonnent comme des exhortations à l'arrêt de la délinquance et permettent déjà de se situer parmi les citoyens ordinaires, avant même d'avoir cessé quoi que ce soit, et alors même que l'on se trouve encore en prison. Alors, juste quelques mots pour, sur les détenus adultes. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, pour les jeunes détenus, leur présence en prison et la plupart des infractions reprochées ne sont pas source de honte, ni face à leur père, ni face aux adultes qui les gardent, mais au contraire, tout au moins lorsqu'ils sont en prison, c'est le signe de leur appartenance au groupe des jeunes. S'ils sont là, ces jeunes, c'est justement parce qu'ils sont comme ceux de leur âge et justement différents des adultes qui les gardent. Des adultes qui les gardent, mais aussi des adultes enfermés comme eux. Car en fait, les vrais détenus, les vrais délinquants, les vrais criminels, ce sont les adultes, les détenus adultes. Ce sont les adultes qui occupent les cellules des trois autres étages et des autres prisons. Eux seuls sont susceptibles de commettre des crimes, des choses graves, des trucs balourds. En fait, pour les garçons, leur toute nouvelle expérience de détenu n'augure en rien une vie carcérale future. Ils ne s'imaginent pas une seconde qu'ils pourraient être adultes en prison. Ça, c'est impensable. Donc ils ne se voient heureusement aucun lien avec ces adultes qu'ils méprisent. Ils ignorent même les condamnés à de longues peines incarcérés depuis de nombreuses années et leur refusent leur statut de sujet. Au départ, quand même, pour essayer d'approcher ces jeunes détenus, je leur ai fait comprendre que j'avais rencontré aussi des grands détenus qui avaient commis des grands crimes, parce que je pensais que c'était des gens qu'ils admiraient. Et ils me regardaient avec des grands yeux en me disant « mais ça existe encore ces choses-là, mais ils n'ont rien compris à la vie, ceux-là ». Aziz et Melance, les majeurs qui sont là, tous des violeurs, on dirait. Ils sont vieux. Je sais pas, ils font quoi pour venir en prison? Ils ont 30, 40 ans. Je me demande, ils font quoi pour venir là? Il y a des majeurs, ils ont 18, 19 ans, tu peux comprendre. Mais à 40 ans, faut arrêter. Il y en a qui viennent que pour des braquages, je comprends. Mais faut aller à l'école, faut travailler, faut payer une maison à mes parents. C'est eux qui nous ont nourris. Faut leur rendre. Et Nadir, plus laconique, me dit, eux, ils bétonnent que pour des trucs balourds. Donc les garçons ne cachent guère leur dégoût. C'est tous des malades là-bas. C'est tous des tueurs d'enfants. C'est des schlags. De manière générale, les adultes en prison sont une infamie. On me dit, les adultes en prison, ça c'est des gens, ils n'ont rien compris. Un autre, outré, à leur âge, ils n'ont pas honte. En fait, ce sont des cas sociaux. Mourad, 17 ans, m'explique, les cas sociaux, c'est des malades mentaux, ceux qui comprennent la vie, même les majeurs. Tout le monde a dit ça. S'ils sont en prison, c'est qu'il est un cas social. Tout le monde dit ça. Donc pour ces garçons, les détenus adultes appartiennent au troisième âge. Ils ont donc largement l'âge de raison, voire même celui de la sagesse. Alors que les adolescents sont emprisonnés pour avoir commis des actes admis par leur père, ces vieux, eux, sont incarcérés pour avoir transgressé les lois et les règles de leurs semblables. Leur délinquance semble ainsi le produit d'une dégénérescence de leur sens moral qui accompagnerait leur déchéance physique. À l'opposé, donc leur propre jeunesse et leur bon état corporel signalent leur bonne santé morale et psychique. Aziz observe, il y a des majeurs, ils sont bizarres. Ils sont tout petits comme ça. Je ne sais même pas ce qu'ils font en prison. Et donc les garçons laissent aux adultes la maîtrise de cet espace stigmatisant qu'est la prison. Ils rêvent à des cieux meilleurs, une vie de travailleur et de père de famille. Eux ne sont là que pour un temps. La prison n'est qu'une simple étape sur la voie de la légalité et de la vie quotidienne ordinaire. Aucun ne semble imaginer l'échec de son projet magique. Alors pour conclure, en fait, on peut dire que donc, si certains promettent de ne jamais revenir en prison et évoquent quand même le traumatisme que les quelques jours ou les quelques semaines passées au CJD de Fleury-Mérogis leur auront causé, la plupart des garçons, durant leur séjour derrière les murs tout au moins, banalisent leur expérience carcérale. Après la peur qui les a tous submergés lors de leur incarcération, notamment s'il s'agissait de la première, ils transforment le quartier mineur en une annexe de la cité par laquelle passeraient finalement des jeunes gens ordinaires, ceux qui ont encore l'âge de s'amuser ou déjà celui de rassembler un pécule en vue de leur installation, de leur insertion future. Cette banalisation de l'expérience carcérale adoucit le séjour carcéral, elle éloigne d'une prise de conscience personnelle et de leurs agissements, et elle interdit toute réflexion sur les parcours individuels. Elle va donc à l'encontre du but qu'attendent les magistrats de l'incarcération, c'est-à-dire mettre à l'écart pour empêcher de nuire, et surtout créer un choc salvateur et une prise de conscience. On peut alors se demander si cette banalisation n'hypothèque pas l'avenir de ces garçons qui n'auraient pas su saisir l'opportunité de ce séjour pour s'engager dans une voie nouvelle. À moins que cette banalisation ne soit bénéfique aux adolescents, en ce sens qu'elle contre, neutralise l'adaptation carcérale que connaissent nombre de détenus adultes et qui pourrait bien les rattraper s'ils étaient réincarcérés une fois leur 18e année atteinte. Parce que refuser de considérer cette expérience comme un premier pas dans le monde carcéral, c'est éloigner de soi une possible carrière carcérale, c'est-à-dire de nouvelles incarcérations. Et dans ce cas-là, cette banalisation les protégerait pour un temps, et symboliquement tout au moins, d'une vie faite d'incarcérations successives. Enfin, dernière possibilité, peut-être qu'en transformant ainsi la prison en un simple ailleurs, si semblable à ces lieux qu'ils fréquentent lorsqu'ils sont libres, ou encore en un monde qui ressemble tant à ce qu'ils aimeraient qu'il soit, les garçons ne fassent la preuve de leur parfaite adaptation à la vie carcérale. Dans ce cas, quel sens et quel effet aura alors cette expérience ? Voilà ce que je peux. Je vous remercie de votre attention.